Voilà, ce soir, un enseignement que j'ai intitulé « Le baptême du Saint-Esprit ». Donc, peut-être pour certains, ça leur paraît pas être un sujet super top, parce qu'ils sont peut-être chrétiens de longue date, ils pensent avoir déjà un peu entendu pas mal de choses là-dessus, et donc du coup, c'est bon, on maîtrise. Mais Dieu m'a amené des compréhensions, où quand j'en ai parlé à quelques personnes, assemblées ou pasteurs, ils ont été un petit peu révolutionnés, ils n'avaient jamais vraiment vu les choses sous cette perspective-là. Donc je pense que ce soir, il y a des clés à comprendre dans cet enseignement. Et puis franchement, je vois énormément d'âneries dans ce qu'on me véhicule, dans les enseignements qui sont postés, dans la séduction de certains enseignants qui, sous couvert d'amener des révélations, d'avoir vécu des expériences spirituelles fortes, disent des choses qui finalement n'ont pas vraiment un fondement biblique. Alors moi je crois à la révélation, mais je crois à la révélation quand elle est alignée sur ce que Dieu nous a laissé, l'écriture inspirée, parce que sinon chacun peut y aller à sa sauce et on peut partir dans des décors pas possibles. Récemment, quelqu'un, un enseignant, qui développe des choses avec lesquelles je ne suis pas en phase. Et je vois beaucoup de personnes qui disent amen à ces choses et je trouve que c'est assez regrettable. Par exemple, j'ai entendu il n'y a pas longtemps que Bouddha, il était un éveillé au même titre que Jésus qui était éveillé. Et donc, sous-entendu, on a tous, j'ai entendu d'autres enseignements de cette personne qui dit que comme on a tous reçu le Saint-Esprit, qu'il a été répandu sur toute chair, on a tous Christ en nous, donc en fait, c'est une œuvre générale qui a été faite par Jésus et que on a juste à puiser à l'intérieur de nous pour toucher cette source de révélation et qu'en gros, Bouddha ou certaines personnes qui ont écrit des choses de la sagesse ont touché Dieu en eux. Et moi, je suis pas du tout de cette croyance-là et de ce que amène cette personne à ce niveau-là. Je trouve que c'est dangereux, séducteur et beaucoup de choses que j'ai quittées dans le New Age. Donc, je vais essayer d'amener, moi, en tout cas, ce que je pense, quelque chose de plus juste. Après, chacun sondera. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction de l'esprit, c'est péché. Mais en tout cas, quand ça vient contre beaucoup de choses qui sont des fondements bibliques, je pense que il y a certaines choses qui peuvent être à remettre en question. Donc donc ces doctrines disent que l'esprit a été répandu sur toute chair, qu'on a tous Dieu en nous et qu'il y a juste si on touche l'amour de Dieu en nous et qu'on s'éveille inconsciemment en conscience à cet amour de Dieu en nous et qu'on le laisse vivre à travers nous, c'est bon. Donc moi je suis pas du tout d'accord avec ces théologies et je crois pas que même quand on laisse vivre cet amour en nous, quand on se focalise sur notre nombril et qu'on regarde à l'intérieur de nous-mêmes, on y touche que Christ. Il y a plein de gens qui ont fait ce qu'on appelle cette écoute intérieure de ce qui se passait à l'intérieur d'eux et qui ont eu des révélations assez hallucinantes de tout un tas de choses, comme ces moines en méditation qui ont eu des révélations du kung-fu et des gestes et postures. Et moi, je crois pas qu'ils ont touché Christ en eux, ces gens-là. Je crois pas que ces personnes qui étaient dans l'islam et le soufisme et qui écoutaient en eux et qui faisaient un chemin intérieur et touchaient Christ en eux aussi pour dire des fois certaines bêtises. Ou certaines personnes qui étaient dans des traditions idolâtres, qui ont rencontré Marie, telle ou telle chose, qui leur a donné des enseignements qui vont loin de ce que nous dit la Bible. À un moment, cet enseignement, il veut aussi apporter un cadre, une compréhension un peu plus juste. Donc je vais reprendre juste certaines bases avant de développer d'autres choses. Donc, dans Jean 3, à partir du verset 3, Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau », donc en grec « anoten » veut dire « naître d'en haut »,« naître depuis le haut », si un homme ne naît d'en haut, depuis le haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit « comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère ?» Jésus répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit », donc la nouvelle naissance, la chair, elle est lavée dans ces eaux du baptême, qui est une préfiguration du lavement, du baptême, de l'immersion dans l'esprit. S'il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est la chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc on a besoin de naître dans la dimension de l'esprit. On a besoin d'être immergé dans le Saint-Esprit. Et non seulement à l'extérieur de nous, mais en nous, Pourquoi? Parce que Dieu, il veut régner dans son temple d'une manière intérieure. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener, guider vers celui, vers la repentance, vers la rencontre. C'est ça le mot. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, le baptême de Jean, c'est pas l'immersion en Christ. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas mort à la croix. Son sang n'avait pas coulé pour nous faire passer dans une nouvelle réalité. Il n'avait pas accompli et il n'avait pas dit tout est accompli, tétélestai, c'est-à-dire la dette de cet ancien contrat est payée pour ceux qui veulent rentrer dans la foi. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Donc il y a une dimension de foi, de croyance pour pouvoir bénéficier de cette grâce qui a été acquise pour tous les hommes. La foi, c'est une ferme assurance, donc il doit y avoir une conviction, une assurance, une compréhension de ce en quoi on met foi, de l'œuvre dans laquelle on doit rentrer pour pouvoir en bénéficier. Alors que là, dans certains concepts d'enseignement, tu n'as pas besoin de mettre foi, tu n'as pas besoin d'adhérer et de comprendre les choses, t'es immergé dans la grâce quoi qu'il arrive. Et ça nous donne même des doctrines après qui viennent avec le salut universel dans d'autres aspects que je développerai dans d'autres enseignements. Et donc dans Jean 17, verset 3, il nous dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le mot « qu'ils te connaissent », donc c'est un idiome juif pour parler de la relation sexuelle. Le mot « sperme », quand Dieu il vient ensemencer son épouse, le mot « sperme »,« sperma », ça veut dire « semence ». Et Dieu vient déposer une semence en nous, la vie nouvelle, son Saint-Esprit, il vient enfanter quelque chose de nouveau dans l'intimité quand on le connaît. Dans un rapport intime. Le voile, par exemple, de l'hymen de la femme dans une relation sexuelle se déchire et l'homme dépose quelque chose et puis il y a un lien de communion qui se tisse. Et ben dans le domaine spirituel, c'est Dieu, il a associé l'alliance de mariage à ce principe-là et donc c'est comme une alliance de mariage, le voile se déchire et il vient ensemencer l'intérieur du temple. C'est pour ça qu'on parle de Christ en nous, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui a été déposé. Romains 8, verset 9. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. » Donc ça veut dire que il habite pas en tout le monde. Il dit « si du moins, si l'esprit de Dieu habite en vous, voilà, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. » Mais ça veut dire qu'il habite pas dans tout le monde, l'esprit de Dieu, comme on veut nous le dire, en disant l'esprit a été répandu, il a compris tout dans son plan de salut, et tout le monde est englobé, il n'y a plus rien à faire. Non, je suis pas du tout d'accord. Quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, la Bible, elle lui dit, il ne lui appartient pas. Donc, est-ce qu'à votre avis, on a tous Christ en nous? Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice. Si Christ est en vous, il y a toujours des conditions. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Vous savez, même quand il est parlé d'Israël à un moment, qui dit, et de l'olivier franc, il dit si les branches naturelles ont été ôtées, qu'elles doivent être hantées. Et dans ce passage, il nous dit qu'il s'est réservé un reste selon l'élection de la grâce. Et la grâce, on l'obtient par la foi. Abraham, il était le père de la foi. C'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Donc si tu n'as pas ton système de croyance et la compréhension de la porte par laquelle tu dois passer, de l'œuvre qui a été accomplie et de l'autorité que tu poses sur ta vie, ben je suis désolé, tu n'as pas été sauvé et tu n'as pas reçu Christ en toi simplement parce que tu vis une émulsion de l'onction. Je vais développer cet aspect-là. Donc on le voit dans la Bible, on peut tout bien faire selon des rituels chrétiens. Acte 19 à partir du verset 1, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Donc on voit bien que les choses ne se sont pas faites automatiquement comme ça, que tous n'avaient pas le Saint-Esprit, que tous n'avaient pas Christ en eux. Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Vous imaginez comment ils ont pu se baptiser et réellement se convertir sans le Saint-Esprit, alors que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, ils n'étaient pas convertis. Ils avaient tout bien fait selon une adhésion mentale et un rituel religieux. Il leur dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent « Du baptême de Jean. » Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Donc, il devient seigneur. Le mot kurios en grec, il est dit 667 fois dans la Bible, comme Jésus présenté comme un seigneur. Il doit devenir une autorité sur notre vie. Et donc, le mot sauveur, il est présenté à peu près une trentaine de fois. Donc, Dieu met l'accent sur le fait qu'on change d'autorité sur notre vie. Jésus dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Donc, c'est pour ça qu'ils doivent changer d'autorité, changer de seigneurie sur leur vie, changer de guidance sur leur vie. Et c'est par la porte de Jésus qu'ils accèdent à la révélation de cette autorité qui a le Père. C'est dans la compréhension et l'acceptation de son œuvre en conscience qu'ils peuvent rentrer dans ce contrat, dans ce nouveau testament, dans cet héritage. La Bible, elle nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur, il n'y a qu'une seule porte, il n'y a qu'un seul chemin pour pouvoir accéder au Père, Jésus. Et Jésus, il dit qu'il est le chemin, la vérité, donc c'est dans le sens de la doctrine, le mouvement, la pensée, l'alignement dans lequel tu dois rentrer et la vie. Et nul disciple n'est plus grand que son maître, mais tout disciple se fera comme son maître. 1 Jean 2, verset 22. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, ni le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Donc il y a une confession de la réalité de l'œuvre de la croix à faire qui montre qu'effectivement, à travers Jésus, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais il y a une confession et une compréhension de l'œuvre de la grâce. Sinon, les apôtres, ils auraient pas dit qu'ils ne prêchaient que la croix. La prédication de la croix est une folie, la Bible dit. Ils ont prêché la croix. Donc, il y a une compréhension de l'œuvre de Jésus. C'est pas tout le monde est englobé comme ça. Allez, tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. You, les petits Indiens. On sera tous sauvés. On ira tous au paradis. Pour moi, il y a quelque chose qui ne matche pas et qui n'est pas dans les fondements de Dieu. Il y a un fruit quand on est né de nouveau, quand on a rencontré le Saint-Esprit dans l'intimité, quand Christ est venu habiter en nous. Donc, c'est important de comprendre. On peut être dans la maison du Père, on peut être né dans l'Église comme le Fils prodigue et ne pas connaître et ne pas avoir la révélation des choses de Dieu parce que c'est le Saint-Esprit qui vient nous amener dans la révélation, qui vient nous asseoir sur le trône de la grâce en esprit. Celui qui est né de l'Esprit est Esprit, et c'est là qu'on est assis dans les lieux célestes. Le fruit du Saint-Esprit, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, quand quelqu'un a reçu Christ, l'onction que porte le Saint-Esprit, loin est son onction, c'est ça que veut dire Christ. Jean 16, verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Il y a une conviction qui vient du péché, il y a une conviction qui vient que pour nous dire le chemin de justice, c'est ça. Il y a une conviction qui vient pour nous amener la repentance, la transformation. Une sainte crainte de Dieu, c'est-à-dire un saint alignement qui a envie de nous faire rester dans ses voies. Larges sont les chemins qui mènent à la perdition, étroit et resserré le chemin qui mène au salut. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc il y a un fruit de l'esprit, c'est-à-dire que non seulement il nous convainc, il nous amène sur le sentier de la justice, mais il travaille tout notre être intérieur et il y a un fruit nouveau du caractère où les gens ils peuvent dire « Attends, je te connaissais avant, mais je ne te reconnais pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui est en travail dans sa vie ?» Vous savez, moi, il y a beaucoup de situations où avant je me serais énervé, j'aurais sûrement boxer des gens, mais tellement il y avait une violence en moi. Aujourd'hui, je n'arrive plus. Même si je voudrais, c'est presque je dois forcer cette nouvelle nature qui est en moi pour pouvoir essayer d'arriver à dire, allez, je vais faire violence. Là, c'est quand même une injustice. Je n'arrive pas. Il y a quelque chose qui est travaillé dans notre cœur, dans notre caractère, dans notre humeur, dans notre patience, dans tout un tas de choses pour nous amener à la stature parfaite de Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui produit ça. Tout don parfait vient de lui. Romains 8, verset 16. Ensuite, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vois beaucoup de chrétiens qui me disent « Mais il me semble avoir reçu le Saint-Esprit, mais je ne suis pas sûr que je suis enfant de Dieu, je ne suis pas sûr de mon salut. » Mais le Saint-Esprit, quand tu le reçois, quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, Romains 8, verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Donc, tu es assuré que tu es enfant de Dieu. Donc, maintenant, on en vient, vous voyez, il y a un fruit du Saint-Esprit, il y a un changement qui s'opère. Il nous aligne sur la pensée de Christ, sur le chemin de justice. Il vient nous faire confesser le Fils pour avoir le Père. C'est ce que la Bible, elle nous dit. Il nous rend témoignage à notre esprit aussi que nous sommes enfants de Dieu quand nous sommes nés de nouveau. Donc maintenant, je vais m'intéresser à des discussions que j'ai eues avec certains pasteurs où ils ont dit, voilà, ça fait 20 ans qu'on suit ces personnes, on ne voit aucun changement dans notre vie, pourtant elle parle en langue à l'assemblée ou elle prophétise. Quand elle est à l'assemblée, quand elle est chez elle, elle n'arrive plus à prier en langue, elle n'arrive plus à prophétiser, les choses ne changent pas, il n'y a pas une passion pour aller vers les choses de Dieu et chercher premièrement le royaume et sa justice, elle n'est pas embrasée cette personne pour ci et pour ça. Et moi j'ai eu beaucoup de suivi aussi où je me suis épuisé avec des personnes avant d'arriver à comprendre cet enseignement. On est bien d'accord que c'est le Saint-Esprit qui produit le changement. Et s'il ne se produit pas, c'est qu'il y a quelque chose qui pose problème. Je vais développer là-dessus, ce n'est pas parce qu'on peut manifester des dons de l'esprit, des charismes de l'esprit, certains diront, qu'on est forcément né de nouveau et qu'on a Christ en nous. Aïe, 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 ça c'est la partie qui pique. Donc, il se peut, et moi aujourd'hui je l'atteste, qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent des dons dans les églises, même charismatiques, et qui ne sont pas nés baptisés du Saint-Esprit. Qui ne sont pas nés d'en haut et qui n'ont pas Christ en eux. Aujourd'hui, l'ancienne alliance, l'ancien contrat, cet ancien testament, la Bible elle nous dit souvent, vous pouvez chercher, fouiller, regarder, gratter, que l'esprit, il reposait sur les personnes et il ne demeurait pas dans, à l'intérieur. La question c'est, est-ce que je peux vivre une onction extérieure parce que je suis dans la présence de Dieu avec des gens qui ont Christ en eux et qui émanent à l'extérieur? Est-ce que ça peut activer Christ à travers des choses extérieures? Oui, mais... est-ce que ça veut dire que j'ai Christ à l'intérieur de moi? Pas forcément. Là, vous vous dites où il veut en venir. Allez, 1 Samuel 10, verset 9, à partir du verset 9. « Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa. Voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre, l'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. » Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait à l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de qui, Saül, est-il aussi parmi les prophètes? Et donc on voit bien que le Saint-Esprit n'était pas répandu sur toute chair, on ne pouvait pas passer à travers le voile déchiré, et pourtant à travers le fait de s'approcher de l'onction prophétique qui reposait sur des personnes, et ben la personne se met à prophétiser. Combien de fois ça m'est arrivé que je disais bonjour à des gens, ou je sais pas quoi, je restais dans une pièce avec les gens, ils se mettaient à avoir des visions, ils se mettaient à être ouverts dans la dimension prophétique. J'ai même vu des personnes pas croyantes, à qui je posais les mains, je priais pour eux, se mettre à parler en langue. Parce que l'onction active Christ depuis l'extérieur. Et il y a quelque chose qui doit rentrer dans notre intérieur, mais ça demande notre acceptation, notre conviction, puisque c'est par la foi qu'on hérite de la promesse et qu'on lui permet de venir régner dans son temple intérieur. Dieu ne viole personne, il se tient à la porte dans l'Apocalypse et il frappe et il dit « toc toc toc, est-ce que je peux ?» Mais l'onction vient taper à la porte, l'onction vient t'activer d'une manière extérieure, mais ça ne veut pas dire que tu as accepté Christ qui vienne régner dans ton intérieur. Je vous pose une question que j'ai posée dans d'autres assemblées. Je vous dis, est-ce que quand Jésus envoie les 12 avec une autorité, est-ce qu'à votre avis, ils ont Christ en eux? Il les envoie encore d'une manière extérieure, puisqu'il n'est pas mort à la croix, le voile du temple ne s'est pas déchiré, et on le voit bien, certains ont même rogné parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux pour leur donner une force pour pouvoir aller jusqu'au bout des choses. Et l'onction qu'il a libérée d'une manière extérieure, où l'Esprit reposait sur, et la Bible elle nous dit, Luc 9, verset 1, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies, les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Mais ils n'avaient pas Christ en eux. Vous comprenez ça? C'était encore quelque chose d'extérieur. Et donc certains, même dans les assemblées, sont mis à prier pour des gens et les gens ont guéri, mais toute leur vie était catastrophique dans l'intime ou quoi, aucune repentance, rien ne changeait au niveau du caractère. Et les dons s'arrêtaient quand ils revenaient chez eux et s'activaient quand ils allaient à l'assemblée. Des gens m'ont dit, moi je ne parle plus en langue, j'arrive pas chez moi, mais quand je suis à l'assemblée, j'arrive à parler en langue. Je n'arrive pas à avoir de vision quand je suis chez moi, ni de communion avec Dieu, mais quand je suis dans la présence de Dieu, dans l'assemblée, avec les frères, il y a quelque chose que j'arrive à accéder. Ces personnes-là, beaucoup ne sont pas réellement nées de nouveau, mais bénéficient d'une onction extérieure qui active les dons d'une manière extérieure, mais ils ont besoin de le recevoir à l'intérieur d'eux. Luc 1, verset 40, elle entra dans la maison de Zacharie, salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, elle fut remplie du Saint-Esprit, elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Donc la notion de rempli, c'est encore quelque chose d'extérieur, c'est pas dans son intérieur, c'est encore, elle fut saisie, elle fut touchée par le Saint-Esprit. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui tu peux vivre une guérison qui est aussi une action du Saint-Esprit sans être converti? Moi, j'ai prié pour beaucoup de personnes qui ont eu une guérison du Saint-Esprit sans être converti. Est-ce qu'il peut, les gens peuvent vivre une délivrance parce qu'ils s'approchent de l'onction? Oui, est-ce que Jésus, il n'a pas guéri les lépreux, ils n'ont pas vécu un attouchement du Saint-Esprit sans avoir Christ en eux? Mais simplement parce qu'il y a été quelque chose qui a été activé depuis l'extérieur d'eux. Oui. Et donc, sur les 10 lépreux, ben, vous voyez, Luc 17, verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9, où sont-ils? Donc, le Saint-Esprit t'attire avec des cordages d'amour. Le Saint-Esprit t'amène à la repentance. Le Saint-Esprit change ton caractère. Le Saint-Esprit t'aligne dans les voies, te rend bouillant, te rend embrasé et passionné pour les choses du royaume de Dieu. Mais quand tu vois des personnes qui sont chez eux, qui n'ont aucun intérêt toute la semaine, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, mais moi, mon conjoint, ma conjointe, elle s'intéresse que à sortir, à quel voyage elle va faire, et ci et ça, et puis elle vient à l'assemblée, alors elle parle en langue, mais tout le reste de la semaine, ou mon conjoint, il n'y a rien qui se passe du tout. Il n'y a pas de caractère qui change, il n'y a pas de crainte de Dieu dans les choses qui sont faites, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, ben je suis désolé, c'est pas parce que tu vis un charisme, parce que tu es activé dans l'onction qui est là, dans un lieu, par une personne d'une manière extérieure, que tu es né de nouveau. Du coup, dans les suivis pastoraux, bah, quand tu t'évertues à essayer d'amener la guérison, la restauration, la compréhension à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, tu vas t'épuiser. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui révèle, c'est le Saint-Esprit qui va après enseigner sur ce que tu as semé à l'extérieur, ça va être confirmé à l'intérieur. Mais là, ça ne se passe pas, il n'y a pas de changement, et la situation reste comme ça, et il n'y a pas de croissance. Et ces personnes-là, le Saint-Esprit, tu es d'accord? Il te fait prospérer, il te fait croître de révélation en révélation, de transformation en transformation. Ce n'est pas normal que 20 ans après, tu en sois au même point que tu étais, qu'en soi-disant, tu as eu une petite émulsion extérieure de la grâce. Ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau, que tu n'as pas été baptisé dans le Saint-Esprit. Pour témoignage, il y a quelqu'un qui m'expliquait, bah, écoute, cette personne, elle a fait la prière d'accepter Jésus, ci et ça, parce qu'elle a vécu quelque chose, un toucher, de l'onction. Et donc, je lui ai dit, est-ce que tu veux accepter Jésus? Je lui ai dit, écoute, cette personne, elle n'est pas convertie. Et quand on a prié pour elle, et juste avant que j'arrive chez elle pour lui faire un suivi, elle me dit, mais moi, je sais pas si je suis réellement enfant de Dieu. Ben, je dis, bah, c'est bizarre parce que le Saint-Esprit doit attester à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Donc, déjà, c'est assez étrange. Donc, je lui propose de prier pour elle, mais dans le sens que le voile se déchire et qu'elle permette au Saint-Esprit, voilà, de régner dans sa vie. Et au moment où on commence à prier comme ça, le voile se déchire, elle vit une manifestation incroyable et juste après, elle dit, c'est bon, je suis maintenant sûr que je suis enfant de Dieu, je suis sûr que je suis né de nouveau. Il y a une conviction qui s'est installée, quelque chose, voilà, qui est inébranlable et que personne ne peut lui prendre. Voilà, la conviction de la nouvelle naissance, la conviction qu'elle est née d'en haut. Quelqu'un qui dit, comment l'onction peut activer quelqu'un qui n'est pas né de nouveau? Bon, voilà. Est-ce que, par exemple, un âne dans la Bible, il est né d'en haut? Est-ce que l'onction, d'une manière extérieure, peut faire parler un âne? Est-ce que l'onction peut parler à quelqu'un qui n'est pas converti pour te répondre? Est-ce que l'onction, d'une manière extérieure, peut t'amener des révélations? Des fois, je posais des questions à Dieu, j'avais pas les réponses. C'est un non-chrétien qui passait par là, activé dans un conseil de sagesse, dans la sagesse d'en haut, d'une manière extérieure, qui répondait à mes questions. Donc, c'est important aujourd'hui de comprendre qu'on peut être activé de choses extérieures. Et finalement, ne pas être réellement né dans notre intérieur. Donc, l'ancienne alliance, je le disais, l'esprit repose sur et ne demeure pas dans. Et ça, ça fait une grosse différence. Et pourtant, dans l'ancienne alliance, il pouvait vivre des choses prophétiques, il pouvait vivre des miracles, il pouvait vivre tout un tas de choses. La main de Dieu était sur eux, d'une manière extérieure. L'onction reposait sur, c'est ce qu'on peut lire. Mais dans la nouvelle alliance, le voile intérieur qui nous voile l'accès à la présence de Dieu se déchire et on peut librement accéder au trône de la grâce. Ésaïe 11, à partir du verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, pas à l'intérieur. esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point selon l'apparence, il ne se prononcera point sur un oui-dire. Il y aurait encore un enseignement à faire sur la fin de ce passage. Mais tout ça pour dire que l'esprit repose sur. Nombre 11, verset 26. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'esprit reposa. Car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp, parce que l'esprit reposait sur. Et le mot nuach en hébreu, il veut dire se poser, il était sûr, il n'était pas dans à l'intérieur. Deux rois, 2:15, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre, ils se prosternèrent contre terre devant lui. Voilà l'ancien. Et voilà maintenant dans le nouveau, Luc 17, verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu n'est non pas au milieu de vous, mais à l'intérieur de vous. Colossiens 1, verset 26. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais maintenant qui est révélé à ses saints. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ à l'intérieur de nous, l'espérance de la gloire. Le mystère caché, le trésor, Christ à l'intérieur de nous. Et donc, où chercher le royaume? Non plus d'une manière extérieure, à travers des choses extérieures, mais le royaume de Dieu est à cultiver depuis notre intérieur vers l'extérieur. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui, ne lui appartient pas. Donc, c'est important de comprendre que Dieu a tant aimé tout le monde. C'est un potentiel, mais on peut voir aussi dans l'Apocalypse que tous les noms sont inscrits, mais qu'il y a des noms qui vont être retirés du livre de vie. Donc ça annule pas mal de théologie et de messages un petit peu fumeux qui nous ramèneraient dans le New Age et puis dans une culture de l'amour bisounours plutôt que le fait de passer par la porte et le chemin étroit. Et ça vous aidera peut-être à comprendre aussi pourquoi des fois vous vous épuisez, puis vous voyez pas de changement dans les situations. Peut-être qu'il faut recommencer par le béaba et que la personne, elle est réellement soif d'ouvrir la porte à Jésus et qu'elle naisse de nouveau, parce que on ne pourra pas recoudre sur de l'ancien. Dieu ne veut pas améliorer l'ancien. L'ancien, on le perfectionnera pas. Il veut nous immerger pour qu'on soit une nouvelle création. Et donc, vous pourrez lutter contre la chair, mais vous ne la perfectionnerez jamais. Vous arriverez jamais à la changer, la chair. Et il y a beaucoup de chrétiens dans les assemblées qui ne sont pas nés d'en haut, nés de nouveau. Et pourtant, ils sont aveuglés, ils sont même prisonniers parce que ils vivent des choses extérieures, alors ils ont l'impression d'eux. Donc ce soir, si ce message te parle, est-ce que l'inverse existe, être né de nouveau, donc d'en haut, en voyant au fruit dans la vie ordinaire, mais ne manifeste pas l'onction? Donc oui, ça c'est un autre débat. On peut commencer par l'esprit et finalement décider de finir par la chair, mais on le voit, l'iniquité c'est un reniement, un changement en conscience des choses. C'est-à-dire qu'on le fait volontairement. Comme moi aujourd'hui, par exemple, si je voudrais un petit peu m'énerver contre certains comportements qui sont injustes, j'arriverais à le pouvoir, mais ce serait plus ma nature, je devrais lutter contre ma nouvelle nature qui fait que finalement j'aime les gens, c'est pas grave, j'arrive à pardonner, et même des fois les choses qui me paraissent injustes où je voudrais réagir, j'arrive même pas à souhaiter de mal, parce que je connais Christ dans une nouvelle mesure, et j'ai simplement de la peine pour eux et pour les conséquences, parce qu'ils ne savent pas des fois ce qu'ils font. On met pas du vin nouveau, comme on le dit, voilà, dans les vieilles outres, et il veut quelque chose de nouveau. Donc si ce soir ce message te parle, que tu n'avais pas l'assurance d'être enfant de Dieu, alors que l'esprit doit attester que tu es enfant de Dieu, peut-être que tu peux simplement le déclarer, le confesser, que voilà, peut-être que tu n'étais pas sûr, si tu n'étais pas fermement assuré, que tu avais peut-être loupé le but, si tu n'as pas vu de changement et de progression dans ta vie et d'aller de gloire en gloire, de révélation en révélation, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'était pas bien enracinée et que la plante n'a pas pu grandir parce qu'elle n'était pas enracinée dans la bonne terre, dans la nouvelle Jérusalem. Donc Seigneur, ce soir je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi qui écoute ce message ce soir, et peut-être que tu peux confesser que aujourd'hui tu voudrais réellement ouvrir la porte à Jésus dans ta vie et recevoir le Saint-Esprit et lui permettre de faire tout ce qu'il a à faire dans ta vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur, la Bible dit, c'est l'Esprit. Et c'est lui qui va t'attirer, c'est lui qui va te convaincre, c'est lui qui va te donner l'onction nécessaire, l'intelligence, la compréhension, les enseignements nécessaires. Donc Seigneur, voilà, je te prie ce soir pour tous ceux qui entendent ce message et qui ne sont pas réellement nés d'en haut, depuis le haut, de les baptiser, de venir dans leur intérieur, de venir déchirer le voile et de régner, de siéger dans le, sur ton trône, dans leur intérieur, au nom de Jésus, je te prie, déchire les voiles. Touche-les, Seigneur, puissamment, baptise-les du Saint-Esprit et de feu, fais-les naître d'en haut, amène-les, attire-les à toi, au nom de Jésus. Change leur mentalité, déchire les voiles, Seigneur, viens les toucher, au nom de Jésus. Viens les rendre passionnés, bouillant pour le royaume. Canto ramaso ramato loco lo mai santo santo, produit cette nouvelle naissance. Produit cette nouvelle naissance. Et quand on te demande, Seigneur, on reçoit. Et on a la foi que quand on te demande du pain, tu ne nous donnes pas un serpent. Koramakamaye, solo, solo. Seigneur, libère le Saint-Esprit. Viens baptiser ces personnes au nom de Jésus et qu'elles puissent, que le Saint-Esprit puisse attester qu'ils sont, elles sont enfants de Dieu. Seigneur, au nom de Jésus, c'est toi qui convainc. Amène ces certitudes, ces convictions. La foi est une ferme assurance et la foi, c'est un don de Dieu. C'est lui qui le fait. Tout don parfait vient de lui. Canto rama so kamaile roa soto toro colo solo imaye imaye imaye. Santo, santo, santo. Quelqu'un qui me dit, j'ai aidé une personne, elle ne change pas. Pourtant, elle se dit en crise. Que faut-il faire? Eh bien, il faut prier que le Saint-Esprit amène à la repentance ces personnes. Et des fois, il faut prier aussi pour savoir si c'est réellement notre mandat d'aider telle ou telle personne. Parce que Jésus ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Et c'est Jésus qui est Seigneur et Sauveur. Et nous, des fois, on peut s'épuiser justement dans des œuvres qui ne sont pas prévues d'avance pour nos vies, dans des choses qui ne sont pas prévues d'avance. Donc Seigneur, on appelle vraiment ta grâce, la conviction de péché, de justice et de jugement. Au nom de Jésus. Santo ramaso camayero dolo dolo. Et je sens qu'il y a une onction qui est là. Seigneur, déchire le voile, ça part au cœur de certaines personnes. Seigneur, si on avait l'apparence d'eux, si on a fait d'une manière extérieure les choses, et Seigneur, viens dans l'intérieur, on se repent, on change d'axe, on accepte, Seigneur, que peut-être on a commencé la course et que tu n'y étais pas et qu'on essayait d'améliorer, de rafistoler l'ancien, Seigneur, et on appelle vraiment, on veut naître d'en haut, Seigneur, au nom de Jésus. Corabaso, corroa, mae. Oh, Kamaye, santo, 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 santo. Amen, amen, amen. Vous savez, il y a un fruit visible hein, de la nouvelle naissance. Tu es passionné, attiré. Vous savez, il y a des gens qui me disent, chrétien, mais je les gonfle. Au début de ma conversion, je les gonflais. Je dis, mais attends, tu peux pas parler de phénomènes de société, de politique, de sport, de machin. Je dis, mais parle jamais du royaume, je sais pas, je peux pas me taire, le zèle pour sa maison me dévore, quoi. Il y a un feu dévorant qui me pousse, je ne sais pas à quoi penser d'autre. Donc que tu puisses naître d'en haut au nom de Jésus ce soir. Amen, amen. Voilà, j'espère que ça produira le bon fruit que tout doit produire cet enseignement et qu'il y aura les transformations intérieures qui doivent se passer aussi au nom de Jésus. Voilà, en tout cas, gardez ce que vous avez reçu et puis si vous avez des témoignages qui viennent à la suite de ça, changement de vie, voile qui se déchire, ben n'hésitez pas à nous donner des témoignages. Bénédiction à tous.